Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il faut aller vite, agir résolument, sinon nous ferions bien de renoncer à tout espoir de vivre d'une façon civilisée. Le pillage des ressources nourricières de la terre est effroyable. La terre est exploitée comme une mine. Les monocultures, elles dérèglent la terre, appauvrissent les paysans. Obliger certains peuples à acheter tout ce qu'ils ne produisent pas et qu'ils cultivaient précédemment est un crime. On n'a jamais vu une terre aussi riche qui profite à un si petit nombre de gens qui vivent ailleurs, du reste, et où les peuples qui travaillent soient si pauvres et si mal nourris. L'exploitation des terres est vampirique. Plus de la moitié des habitants du globe ira se coucher ce soir, la faim au ventre. Propos récent ? Non, il date du début des années 50, du 28 novembre 1953 précisément, et l'émission qui suit est une évocation scénarisée d'un congrès de la FAO.
Le siècle en est là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion française va vous présenter « Le siècle en est là », deuxième série numéro 1, texte et réalisation de Robert Coulomb. Peut-être vous rappelez-vous, après un an d'intervalle, qu'au cours de chacune de nos émissions précédentes, l'auteur prenait pour thème une des grandes questions dont tout le monde parle. Il s'efforçait d'en étudier l'évolution et, comme on dit, d'en faire le point, valable du moins pour l'heure actuelle. Or, depuis quelques jours, comme vous avez pu le lire dans les journaux, se tient solennellement à Rome, sous les auspices de l'ONU, le congrès de la FAO, ce qui veut dire en termes plus explicites le congrès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un des problèmes les plus angoissants qu'ait fait surgir l'évolution du monde est en effet le suivant. La Terre est-elle trop petite pour nourrir les hommes? Nous allons nous demander aujourd'hui avec vous comment se pose ce problème dont l'importance est si considérable et peut-être si tragique pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants. Les rôles des personnages qui prendront part à l'action, ainsi que ceux des savants, des économistes et des écrivains dont les opinions seront évoquées et confrontées au cours de cette émission, auront pour interprètes, par ordre d'entrée dans l'action, Fernand Fabre, Jeanne Val, Hieronymus, Marcel Alba, Frédéric, Georges Hubert, Maxime Léry, Linette Lemercier, Serge Nadeau, Dominique Bucard, Robert Moore, Jean-Louis Alibert, Gaëtan Jor, Henri Presta, Albert Gercourt, Georges Carmier et Louis Arbessier. Collaboration, Frédéric.
La Terre est-elle trop petite pour l'homme? Ou plus précisément, la Terre est-elle trop petite pour assurer aux hommes leur nourriture? L'humanité court-elle le risque de mourir tôt ou tard de faim? Tôt ou tard, je devrais dire bientôt, s'il faut prêter l'oreille aux appels angoissés que jettent de continent à continent des économistes, des agriculteurs, des hommes politiques, des savants qui proclament, prophètes de la catastrophe, qu'à une allure vertigineuse, l'humanité court à sa faim. À sa fin F.I.N., à une fin dont la cause tragique et de prime abord incroyable aura été la faim. La faim F.A.I.M.
«
que le monde puisse mourir de faim, comment réaliser une telle idée? Comment la croire concevable quand, en chemin de fer ou en auto, nous parcourons un pays comme le nôtre, riche de tout l'or de ses moissons, des rubis de ses raisins, de l'émeraude de ses pâturages? D'ailleurs, quand on y réfléchit plus avant, quand on y réfléchit de sang-froid, et en s'interdisant de céder à la contagion de la panique, que représente par rapport au volume total de la Terre l'ensemble de tous les hommes, de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants qui vivent à sa surface? Peu de choses. Oh, bien peu de choses. L'équivalent de quelques poignées de sable par rapport à l'immensité du désert, celui des gouttes d'eau d'une ondée par rapport à l'immensité de l'océan.
Oh. Si peu de choses.
Mais oui, si peu de choses. Pour vous en persuader, demandons à un géomètre quelle surface occuperait sur la Terre l'ensemble de la population du globe si on était en mesure de la grouper en un même lieu.
Calcul très simple à faire. Quel est à l'heure actuelle le chiffre de la population du globe?
De 2 milliards et quart à 2 milliards et demi d'individus.
Adoptons ce dernier chiffre. Et supposons que nous demandions à tous les habitants de la Terre de se ranger côte à côte à raison de 4 personnes par mètre carré.
Cela représenterait une affluence à peu près égale à celle du métro parisien à l'heure de la sortie des bureaux.
Environ.
Mais beaucoup moins compacte et de loin que celle qui donne un charme et une intimité si personnelle au tramway marseillais.
Oh, beaucoup moins. Eh bien, il est aisé de se rendre compte que dans ces conditions, l'ensemble de la population du globe tiendrait sur une surface de 62 500 hectares.
Quoi?
Autrement dit, 625 km carrés. Bref, une surface égale au dixième environ d'un département français comme le Var, le l'Ille-et-Vilaine ou la Somme.
Oh, stupéfiant.
Ainsi, sur le territoire de Paris et du département de la Seine, ce serait plus des 2/3 de la population de la Terre qui pourrait trouver place. Et si l'on veut une autre image, qui ne me paraît pas moins frappante, le savant géographe Hendrik Willem van Loon se fera un plaisir de nous dire...
Supposons que tous les habitants de la Terre mesurent 1,80 m de hauteur, qu'ils aient 50 cm de largeur et 35 cm d'épaisseur, ce qui représente une corpulence bien supérieure à la moyenne. Supposons que nous les logions tous dans une maison cubique où la hauteur de chaque étage serait celle de la taille d'un homme. Eh bien, la hauteur totale et le côté de cette maison cubique n'atteindraient pas 1 km.
Oh. 1 km, pas plus?
Oh, j'admets parfaitement que cela puisse paraître incroyable, mais les chiffres ne mentent pas.
Ainsi, toute la population du globe tiendrait dans une maison cubique de moins d'1 km d'arête, l'équivalent d'un massif bien modeste des Basses-Alpes ou des Vosges. Et l'on vient nous conter que les ressources de la Terre dont le volume est par rapport à celui de cette maison gigantesque, et l'on vient nous conter que les ressources de la Terre risquent d'être épuisées par les habitants de cette maison et par leurs descendants. Impossible. Il faut croire cependant que ce danger est bien grave, puisque dès 1946, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, s'emparer de la question et publier en 1950 les résultats d'une grande enquête menée dans le monde entier par les experts les plus illustres. Peu de problèmes, proclamait l'ONU à l'issue de cette enquête.
Peu de problèmes risquent, dans la conjoncture actuelle, d'avoir des conséquences plus graves que la mauvaise répartition des ressources alimentaires dans le monde et que le gaspillage qui en décuple les effets. Misère et famine dans certains pays, surproduction et mévente dans d'autres. Or, la population du globe s'accroît de plus de 20 millions d'êtres humains par an. 20 millions. Ce sont là autant de bouches nouvelles à nourrir. Partout, on s'efforce d'élever le niveau de vie, mais dans bien des régions, le sol s'appauvrit sans être rationnellement exploité. Chaque année, de nombreuses terres cultivées retournent au désert. Cette situation menace de mettre en péril le progrès humain et la paix.
Le progrès humain et la paix. Angoissante menace, en effet. Et qui trouve sous la plume de certains écrivains, généralement anglo-saxons, des formes d'expression saisissantes. Comme quand un William Vogt, célèbre économiste américain, synthétise cette menace en 3 lignes lapidaires.
Les populations augmentent, les terres s'épuisent, mangerons-nous demain?
essayer de répondre à cette tragique question, examinons d'abord les arguments de ceux qui lancent un SOS, de ceux que nous appellerons pour plus de commodité, les pessimistes. Que nous disent-ils, ces pessimistes? Ils nous disent, premier point, il est de fait que la population du globe est en plein accroissement. Dans quelle mesure? Demandons-le à Fairfield Osborne, économiste américain comme William Vogt, aussi célèbre que lui et aussi éminent.
Il y a lieu de penser qu'au milieu du XVIIe siècle, la population de la Terre ne dépassait guère 400 millions d'habitants.
400 millions? Mais plus? Oui. Oh.
Pendant les deux siècles suivants, son chiffre a continué à augmenter, de façon d'ailleurs plus marquée, de sorte que vers 1830, il avait en pratique doublé.
Doublé?
C'est alors que se produisit un cataclysme d'un nouveau genre. L'augmentation brusque et violente, on pourrait presque dire explosive, du nombre des humains.
Dans quel sens explosive?
En ce sens que vers l'année 1900, la population mondiale avait encore doublé pour atteindre 1 milliard 600 millions de personnes. En 1940, les 2 milliards étaient largement dépassés et depuis lors, le chiffre continue à monter.
Ce sont là des informations qu'en 1950, à l'issue de leur enquête, les experts de l'ONU confirmaient et complétaient de la façon suivante.
Monsieur Paul Vincent.
Depuis le début du 19e siècle, si la population de l'Afrique ne s'est probablement accrue que des trois quarts, celle de l'Asie s'est trouvée multipliée par 2,5 environ. Celle de l'Europe, elle, a triplé.
Triplé?
Oui. Oui, et quant au peuplement du Nouveau Monde, il est devenu vertigineux depuis 1850. Alors qu'en 1800, les deux Amériques n'abritaient guère que 25 millions d'habitants et que 60 millions en 1850, leur population a passé aujourd'hui à un chiffre quintuple.
Quoi, depuis cette dernière date?
Oui, depuis cette dernière date, oui, 1850. À première vue, le tableau de cet accroissement général des populations a quelque chose d'impressionnant. Qui semble donner raison à ceux qui vivent sous la hantise d'un monde plein à craquer.
Et a-t-on calculé de combien s'accroît chaque année la population de la planète? Et à quel rythme a lieu cet accroissement?
Ah, certainement!
Monsieur Peter Keith.
On prévoyait pour l'année 1949 25 millions supplémentaires de bouches à nourrir. On peut dire que depuis quelque temps, la population du globe s'est accrue chaque année dans la proportion de 1%.
Ce qui signifie que chaque année, elle augmente du centième de ce qu'elle est.
Oui, si l'on veut quelques détails...
Monsieur Paul Vincent.
Oui, si l'on veut quelques détails, portant sur une période immédiatement antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, le taux d'accroissement des populations était compris entre 1 et 2% dans la plupart des pays de l'Amérique du Sud, au Japon, aux Indes, en Égypte, dans la majeure partie de l'Europe de l'Est et du Sud, ainsi qu'aux Pays-Bas. Il avait atteint et même dépassé 2% dans un certain nombre de régions, notamment à Formose, en Palestine, à Costa Rica et probablement aussi en URSS. Il était en revanche inférieur à 1% au Chili, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans presque tous les pays de l'Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Quant à la France et à l'Autriche, elles ont connu des taux d'accroissement négatif,
oui.
Ce qui veut dire tout simplement que leur population avait diminué.
Oui, un phénomène qui s'est produit avant la grande poussée de natalité consécutive à la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, en effet, il est probable en outre que certaines régions de l'Asie et de l'Afrique ne voient croître que de façon très faible le chiffre de leur population. Et cela bien que leur natalité soit extrêmement élevée. Mais ben, il s'agit de régions où la mortalité est également très forte.
Du fait sans doute que les progrès de la médecine et l'hygiène n'y ont encore exercé leur action que de façon très incomplète.
Oui, en particulier.
Mais alors, admettons que cette action s'y exerce sous l'influence des forces dites civilisatrices, et qu'elle détermine en Asie, en Afrique, comme elle l'a déjà fait en Amérique et en Europe, d'une part, une baisse massive de la mortalité infantile, d'autre part, un prolongement très sensible de la durée de la vie humaine.
Oui.
Cette action incontestablement bienfaisante au point de vue moral et humain aura donc pour effet de multiplier encore sur la Terre le nombre des bouches avides qui réclameront leur nourriture.
C'est probable.
Monsieur Peter Keith.
Tenez, d'ailleurs, Un simple exemple des phénomènes qui tendent à se produire quand les conditions de vie s'améliorent. Aux Indes, l'absence relative de famine pendant une période de 10 ans, de 1931 à 1941, a produit un accroissement de 50 millions d'habitants pour une population déjà énorme. Presque 15% de plus en une décade.
Alors, faut-il penser que, comme le disent les pessimistes, en admettant que la population du monde augmente de 1% par an, comme c'est le cas actuellement, elle le doublera en 70 ans, quadruplera en 140 ans, et atteindra, pour fixer les idées, d'ici 70 ans, le chiffre formidable de 5 milliards d'individus.
Ce qu'il faut penser, à tout le moins, c'est ceci.
Monsieur Aldous Huxley.
Même si une politique mondiale de la population était décidée et appliquée dans un proche avenir, en se fixant pour but une réduction appréciable du taux de la natalité, le nombre des personnes en âge de procréer est actuellement si grand que malgré tout, l'ensemble de la population du monde continuerait à s'accroître. Au moins jusqu'à la fin de ce siècle.
Oui, les effets d'une politique, comment dire, restrictive ne pourraient se faire sentir que dans plusieurs générations.
Mais c'est évident. De telle sorte que, même dans les conditions les plus favorables que nous puissions raisonnablement imaginer, la population du monde commencera certainement par s'élever à 3 milliards d'habitants, au moins avant de commencer peut-être à décroître. Autrement dit, quoi qu'il arrive, le prochain demi-siècle sera dans le double domaine politique et économique une ère de graves dangers.
Oui, oui, comme disent les pessimistes, de toute façon, l'échéance est proche.
Indépendamment de l'ONU, tout un groupe de chercheurs, qui sont d'ailleurs parfois les mêmes que ceux auxquels cette organisation avait jugé indiqué de faire appel, tout un groupe de chercheurs fait équipe à l'Institut National Démographique de Paris autour du directeur et animateur de l'Institut, M. Alfred Sauvy. Ingénieux, novateur, pratiquant des méthodes scientifiques rigoureuses, ces chercheurs complétaient par des informations parues entre 1946 et 1950 les résultats de l'enquête organisée par l'ONU. On prendra sans doute intérêt à celle qui se rapporte à la France.
Nous nous inspirons ici des travaux de M. Jean-Bourgeois Pichat.
Le comportement des Français à l'égard de la question des naissances s'est profondément modifié depuis une dizaine d'années.
Écrit en 1950.
Alors que, en effet...
M. Louis Chevalier.
Alors que le chiffre des naissances s'était élevé en 1939 qu'à 614 000, il avoisine pour la quatrième fois en 1949 le chiffre de 850 000. Il est donc supérieur de près de 40% à celui d'avant-guerre. Ce phénomène considérable a d'ailleurs une portée générale. Dans les pays de faible natalité, une reprise générale des naissances a été constatée, y compris dans les pays neutres qui n'ont pas été touchés par la guerre.
Ainsi, en 1950, j'insiste, tout le monde est bien d'accord. L'accroissement général de la population du globe se poursuit à un rythme d'une surprenante vitesse. Or, deuxième élément du problème, que nous affirment les pessimistes ? Ceci. Ils nous affirment que les ressources alimentaires de la Terre, de cette terre qui doit nourrir chaque année plusieurs millions d'habitants de plus que l'année précédente, il nous affirme que les ressources alimentaires de la terre sont en voie d'épuisement progressif.
Oh mon Dieu !
Oui, non seulement progressif, mais rapide. Et à ce sujet, leur argumentation se fait en trois temps. Premier temps, même à l'heure actuelle, nous disent-ils, la terre n'est pas en mesure de nourrir de façon décente l'ensemble de sa population. Pourquoi cela ? Laissons la parole à M. Paul Rebout.
M. Paul Rebout, s'il vous plaît.
Un instant, mademoiselle. Oui, M. Paul Rebout, qui avait écrit au cours de sa carrière un certain nombre d'ouvrages où transparaissait, on peut le dire, un goût des plus vifs pour l'amour, a publié, il y a 2 ans, un gros ouvrage bourré de chiffres et de statistiques et dans lequel il s'inquiète en termes angoissés de la prolifération, qu'il juge excessive, des fruits vagissants de l'amour. Et voici une question que se pose l'écrivain.
Vous est-il arrivé, mesdames et messieurs, de calculer quelle est la superficie de terre cultivable qu'il faut à l'homme ? Je veux dire à chaque homme pour vivre.
il lui faut un champ pour cultiver le blé qui lui donne son pain quotidien, c'est-à-dire 100 kilos par an. Un jardin, un verger qui lui fournira des légumes et des fruits, une source qui lui donne de l'eau, une rivière qui lui donne des poissons, une prairie où il pourra faire paître des vaches pour avoir du lait, du beurre, du fromage, de la viande de boucherie. Il lui faut encore des fourrés où pourront picorer des volailles et où iront gîter des lapins dont il utilisera la fourrure et la chair.
Sauf en période de myxomatose.
Oui, de préférence. Il faut encore à l'homme un autre pré où il pourra faire paître les moutons qu'il tondra et qui contribueront eux aussi à le nourrir. Que lui faut-il encore ? Un peu de forêt dont les arbres abattus formeront sa maison et où s'ébattra le gibier qui lui permettra de compléter son alimentation et aussi ses vêtements, grâce au cuir des cerfs et des biches. D'une carrière, il tirera des pierres pour consolider ses murs. Une vigne lui permettra de s'abreuver.
Bien entendu, une vigne. N'oublions pas que nous sommes en France. Oui.
Mais qui saurait l'oublier ? Or, répondant à ma question, les agronomes nous disent que les besoins de chaque homme correspondent à ce que peut fournir une surface de terre cultivable équivalent à un carré de 100 mètres de côté. Autrement dit, à un hectare.
À un hectare, oui. Oui, mais objectera-t-on à M. Paul Rebaud, ce chiffre est excessif. Deux experts éminents de l'ONU ne nous affirment-ils pas que la surface de terre cultivable nécessaire à la subsistance de chaque homme serait seulement de 8 dixièmes d'hectare? C'est M. Aldous Huxley qui l'affirme.
Ouais.
Ou même de 6 dixièmes et demi, si on ajoute foi au calcul de M. John Russell. Calcul établi en se basant sur le régime alimentaire d'avant-guerre du citoyen anglais.
C'est exact.
Mais tenons pour valable ce dernier chiffre, le plus bas. Les ressources de la planète en terrain cultivable sont-elles, oui ou non, suffisantes pour assurer aux hommes, à l'ensemble des hommes, leur nourriture? Consultons de nouveau l'ONU, enquête de 1950.
M. Aldous Huxley.
Eh bien, je réponds non. En fait, à l'heure actuelle, les terres propres à la culture des produits alimentaires ne couvrent guère plus d'1,620 milliard d'hectares. Or, calculez-vous même, si la population de la Terre s'élève, et c'est un chiffre minimum, à 2,25 milliards d'individus, cela représente pour chacun, calculez...
Voyons, ça représente...
Cela représente 7 dixièmes d'hectares. Et si la population atteint, ce qui est possible, le chiffre de 2,5 milliards d'habitants, cela représente pour chacun moins de 6 dixièmes et demi d'hectares.
Oui, le chiffre limite.
Le chiffre limite, en effet. Ce à quoi il y a lieu d'ajouter que toutes les terres dont nous disposons ne sont pas bonnes et que nombre d'entre elles sont de très basse qualité.
Oui, c'est sans doute pourquoi William Vogt a pu dire qu'en Europe, l'ensemble du continent ne dispose guère que de 33 arts, autrement dit de 3 dixièmes, un tiers d'hectare par personne. Et qu'en Chine, on ne dispose même pas de 20 arts, de 2 dixièmes d'hectare de terres cultivables par personne.
Évidemment, quoi qu'il en soit de ces chiffres, et même sans être aussi pessimiste que M. William Vogt, les ressources alimentaires mondiales ne suffisent pas, à l'heure actuelle, à faire vivre la population de la planète. Voilà le fait.
C'est ce qu'indiquait d'ailleurs de façon fort précise le rapport établi...
Monsieur Peter Keith.
Le rapport établi par un de nos organismes et qui disait ceci. Pour l'année qui s'est terminée le 30 juin 1948, les peuples d'après-guerre, à l'exception de l'URSS, ont disposé de 12% de nourriture en moins que durant la période que l'on peut considérer comme normale, 1934-1938. Et quand on dit qu'elle était normale... À cette époque, ne l'oublions pas, le tiers seulement de la population du globe bénéficiait de ressources alimentaires abondantes. Pour un autre sixième, les disponibilités étaient suffisantes, mais plus de la moitié des hommes, je cite un rapport officiel, avaient un niveau alimentaire insuffisant pour entretenir une santé normale, permettre la croissance normale des enfants ou fournir assez d'énergie pour un travail normal.
En d'autres termes, en 1938 déjà, la moitié de l'humanité avait faim.
Hélas, oui.
Et attention...
Monsieur André Maillet.
Mais oui, attention. C'est un double point de vue qu'existe chez les hommes, ce que j'appelle l'inégalité devant la faim.
Oui, au point de vue de la quantité des aliments et à celui de leur qualité.
C'est cela. La sous-nutrition, la famine ne sont en effet pas les seuls dangers qui nous menacent. Une alimentation techniquement suffisante en quantité, mais à laquelle il manque des éléments indispensables et protecteurs, est aussi meurtrière que la faim.
Vous voulez dire sans doute des éléments comme des vitamines, le calcium...
Le phosphore, le fer, l'iode, etc., etc. Bref, une quarantaine d'éléments nutritifs indispensables à la sauvegarde de la santé. Or, à ce point de vue, si important de la malnutrition, les inégalités entre les nations sont immenses. C'est ainsi que la consommation quotidienne de protéines d'origine animale varie de 61 grammes en Nouvelle-Zélande à 12 grammes au Japon. La consommation de lait est de 291 kilos par an en Argentine et de 42 seulement en Bulgarie.
Sans qu'il s'agisse là, bien entendu, de préférence alimentaire nationale pour tel produit plutôt que tel autre.
Oh non, bien entendu pas. J'ajoute que dans une même nation, ces inégalités ne sont pas moins sensibles entre les groupes sociaux, les classes sociales. Ainsi, en Grande-Bretagne, avant la dernière guerre, la consommation de la viande et des poissons variait, suivant ces groupes, du simple au double. Et celle du lait, de 1 à 6.
Oui. Or, tous les Anglais aiment le lait, le poisson et la viande. Les plus pauvres surtout, pourrait-on sans doute dire.
Mais bien entendu.
Il y a, dans la sécheresse sans fioriture des chiffres, des enseignements impressionnants. Mais quelle n'est pas aussi la tragique, l'effroyable éloquence d'un certain nombre de rapports qui ont quelquefois l'accent de réquisitoires implacables et que viennent de livrer à nos méditations avec une sorte de synchronisme des journalistes, des sociologues, des hommes politiques, des savants. Écoutons par exemple M. Josué de Castro, président en 1952 du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous compter sans emphase, mais avec une précision sans pitié, ce qu'il appelle lui-même la parabole de la faim.
Les ravages produits par la faim sont bien supérieurs à ceux produits à la fois par la guerre et par les épidémies. Et pourtant, il existe dans notre civilisation un refus presque total d'aborder ce problème, de l'étudier dans son aspect de calamité universelle.
C'est un sujet tabou.
C'est un sujet tabou. La faim est une chose impure et suspecte à laquelle il serait malséant de faire allusion autrement que par hasard. Et pourtant, au cœur du continent sud-américain et dans certaines vallées de l'Himalaya, il est difficile de ne pas rencontrer un adulte qui ne soit pas affecté d'une maladie terrible qui déforme le corps et atrophie l'esprit, une maladie qu'on appelle le goitre. Ce fléau effroyable qui conduit à la dégénérescence de l'individu est-il une caractéristique raciale, la marque héréditaire d'un groupe humain déterminé ou en aucune façon? Il s'agit simplement d'un symptôme de la faim. Oui, de la faim par manque d'iode. Ailleurs, manque de vitamine A. J'ai eu l'occasion d'assister dans la partie centrale du nord-est du Brésil à une épidémie de cécité.
De cécité?
Eh oui, puisque je vous le dis. Pendant une période de famine aiguë consécutive à des sécheresses terribles qui désolent périodiquement cette région et privent ses habitants du lait, du beurre et des légumes qui leur fournissent cette vitamine, on a enregistré l'apparition d'une maladie extraordinaire, d'un mal étrange qui fait que les gens, dès la fin du jour, sont complètement plongés dans les ténèbres, ou si vous le voulez, pour être plus exact, plus précis, ne perçoivent plus les objets.
Oh, quelle horreur!
Pendant la journée, l'éclat incandescent de l'air, brûlant, a un effet nocif sur les pigments visuels des habitants. Et ces pigments ainsi détériorés par l'action du soleil ne peuvent pas être recomposés chimiquement par suite du manque de vitamine A.
Oh, mon Dieu!
Une autre déficience qui pèse cruellement sur la santé de la plupart des peuples de l'Amérique du Sud, c'est la déficience en fer. Dans la plus grande partie de ce continent, les régimes alimentaires en usage n'arrivent pas à fournir les 10 à 15 mg de fer nécessaires à la production quotidienne du pigment d'hémoglobine qui devrait se trouver dans le sang. Que se passe-t-il dans ces conditions? Ceci, dans des régions comme le Brésil, où le mal atteint son intensité maxima, poussant ainsi au dernier point l'anémie dont souffrent les habitants, les gens mangent de la terre.
De la terre ?
Oui, oui, parce que cette terre est riche en sel de fer. Il y a aussi l'histoire de ce que l'on me permettra d'appeler les poneys humains.
Les poneys humains ?
Oui, et je cède à ce sujet la parole à l'économiste Carl Mickey.
Non, c'est une chose très simple. Aux îles Shetland, ces îles situées à l'extrême nord de l'archipel britannique, on a vu venir au monde, et ensuite prospérer, si j'ose dire, des chevaux d'une taille réellement minuscule. Les chevaux les plus petits du monde, de véritables jouets pour enfants. Dans quel sens ont réagi à cette occasion les savants ? Eh bien, ils se sont dit une chose toute naturelle. Ils ont supposé que les poneys constituaient à eux seuls une race nouvelle de chevaux.
Une race particulière ?
Oui. Seulement, qu'arriva-t-il ? Il arriva que des négociants résolurent d'élever aux États-Unis des poneys.
Oui, pour les exhiber dans des cirques.
C'est possible. Toujours est-il qu'ils éprouvèrent une déception compréhensible quand ils constatèrent que là-bas, les poneys grandissaient.
Grandissaient ?
Et qu'ils atteignaient rapidement, en peu de générations, la taille des chevaux normaux, la taille des chevaux des autres races.
Mais, alors, cela veut-il dire que la race des poneys était une construction de l'esprit ?
Mais oui, bien entendu. Cette pseudo-race n'existe pas.
Mais dans ce cas...
Dans ce cas, rien n'est plus clair. Les poneys sont des descendants de chevaux anglais qui avaient été importés au Shetland. Dans ces îles où la terre, d'une extrême pauvreté, manque en particulier de certains minéraux essentiels, ces chevaux avaient été en proie à une dégénérescence progressive. Mais après des centaines de générations déficientes, les poneys à peine transplantés dans des régions au sol plus riches, aux pâturages plus nourrissants, réacquièrent à nouveau les caractéristiques physiques de leurs ancêtres.
L'étonnante aventure.
Oui. Oui, mais une aventure de même genre se répète pour des groupes non plus animaux, mais humains.
Humains ?
Mais parfaitement. Les Chinois et les Japonais, par exemple, on m'excusera de le dire, ne sont pas autre chose avec leur petite taille et leur poids trop réduit que des poneys humains.
Comment ? Cette petite taille et ce poids trop réduit seraient le résultat ?
Ils sont le résultat d'un manque chronique de nourriture. Et la chose est si vraie que quand certains Chinois et certains Japonais émigrent aux États-Unis, pays où ils bénéficient de conditions alimentaires enfin satisfaisantes, ils donnent naissance à des enfants dont on constate qu'en deux générations, la taille s'élève de plusieurs pouces.
De plusieurs pouces ?
Et un phénomène du même genre a lieu pour les pygmées de la zone équatoriale africaine quand ils sont transplantés vers la région, agricolement plus riche que la leur, des savanes.
De telle sorte que les races humaines que certains appellent inférieures...
De telle sorte que ces races, soi-disant inférieures, sont seulement des races affamées, dont on constate qu'elles ont, lorsqu'elles sont par aventure bien nourries, des caractères exactement semblables à ceux des races dites supérieures.
Incroyable.
Et tenez, nous parlions de la Chine. Incroyable. Nous parlions de la Chine, ce pays que j'ai appelé l'aquarium de la faim. Savez-vous comment s'explique la manie qu'ont les Chinois d'élever des chiens ? De pauvres bêtes qui constituent d'ailleurs, comme l'a dit Walter Mallory, la collection de chiens la plus efflanquée, affamée et abandonnée du monde entier. Savez-vous comment elle s'explique, cette manie ? Alors que le manque de ressources alimentaires ne leur permet même pas de nourrir leur famille. Alors qu'il s'agit d'un pays duquel il n'est pas exagéré d'affirmer que plus de 50% de sa mortalité est causée, directement ou non, par la faim.
Mon Dieu.
Eh bien, en une seule phrase, les Chinois vous l'expliquent. Les chiens s'arrangent toujours, disent-ils, pour trouver de quoi manger. Et nous, nous les mangeons dans les mauvais jours quand on ne trouve plus autre chose. Et quand il s'agit de l'Inde...
Oh, l'Inde!
Et quand il s'agit de l'Inde, pays à la culture et à la civilisation aussi riche que celle de la Chine, ce sont plutôt les chiens, nous disent les voyageurs, qui prendraient leur revanche.
Des chiens?
Mais oui, car des témoins, aussi divers à tant de points de vue, mais aussi habitués à bien voir, que M. Paul Reynaud et M. Adlai Stevenson nous rapportent de voyages tout récents dans l'Inde et le Pakistan, les mêmes tragiques instantanés, au petit matin, dans les grandes villes, aux buildings et aux garages orgueilleux, à l'heure où les voitures de luxe s'ébrouent paresseusement sous l'énergique caresse des jets d'eau, les chiens, auxiliaires bénévoles des services de voirie, emportent entre leurs dents des cadavres éthiques, ceux des dizaines de malheureux qui sont morts de faim dans la nuit.
Oh, l'Inde, c'est le pays si tragiquement déshérité.
Monsieur Paul Rebaud.
Où en 1944, à Calcutta, les autorités britanniques firent distribuer des paniers de riz, non pas pour soulager les affamés, infiniment trop nombreux et trop épuisés, mais pour en rassembler le plus possible en un même point et pour faciliter ainsi, dans un avenir très proche, le ramassage des cadavres.
Effrayant.
Mais en ce qui concerne l'Inde et la faim qui y règne, pas un témoignage ne rend un son aussi affreux que celui qu'a publié fin septembre la traditionnellement très prudente et assez peu révolutionnaire Revue des Deux Mondes. Oui, un témoignage signé du nom d'un romancier, M. Maurice Bedel, prix Goncourt, qui a toujours eu pour habitude de chercher à travers le monde, sous toutes les latitudes, plutôt des occasions de sourire que des occasions de s'affliger.
M. Maurice Bedel a dit...
J'arrivais du Siam, j'avais l'âme en fleurs. En arrivant à Calcutta, j'ai pénétré dans un pays d'affamés, de squelettes vivants, un pays de vaches sacrées allant par les rues des villes et flanquées, nourries d'ordures et de papier journal. Quant à la gare de Calcutta...
Oui, Monsieur Paul Reynaud en a parlé aussi.
Quant à la gare de Calcutta, elle est la gare la plus tragique du monde. On pourrait écrire à son fronton au rendez-vous de la fin, de la douleur et de la mort. Pas un hall, pas une salle d'attente, pas un accès au quai qui ne fut occupé par des familles installées là pour la nuit, sur un espace vital de quelques mètres carrés de ciment, sur lesquels étaient jetés des loques qui leur servaient de couche.
Oh, à Calcutta.
À Calcutta. Dans une des villes les plus peuplées de la Terre. C'est sur ces quelques mètres carrés de ciment que les enfants venaient au monde, que les malades mouraient. J'y ai vu un spectacle qui me déchira le cœur, celui d'une mère assise au sol, tenant sur ses genoux la tête de son enfant étendue auprès d'elle. Il mourait. Les paupières mi-closes, les lèvres entrouvertes au dernier souffle de sa maigre poitrine, il achevait sa pauvre petite existence d'enfant de gare. Et d'ailleurs, dans les parages du marché de Harrison Road, dans ces rues et ruelles réservées au commerce, j'ai vécu un instant la fable de l'aveugle et du paralytique, telle que l'imagination d'aucun fabuliste n'aurait pu la bâtir. Un enfant aveugle portait sur son dos un autre enfant dont les jambes sans pieds pendaient de chaque côté des hanches du porteur comme deux chandelles de suif.
Oh non, non, arrêtons là cette tragique parabole de la faim. Les quelques exemples entre mille que nous venons de citer sont d'ailleurs complètement suffisants pour permettre aux pessimistes de nous dire « La preuve est faite que même à l'heure actuelle, la Terre n'est pas capable de nourrir de façon équilibrée et complète l'ensemble de sa population. » Et aussitôt ils ajoutent, deuxième point, « Nous avons fait cette preuve en admettant que la population de la planète reste fixe. »
Or, la population mondiale... ne cessera d'augmenter.
Monsieur Aldous Huxley.
Elle s'accroît, je l'ai déjà dit tout à l'heure, au rythme de 200 millions tous les 10 ans.
Et c'est pourquoi ce soir...
Monsieur Norris Dodd.
Et c'est pourquoi ce soir, plus de la moitié des habitants du globe iront se coucher avec la faim au ventre. Et demain, à l'heure où nous prendrons paisiblement notre petit déjeuner, il y aura sur la Terre 55 000 humains de plus qu'aujourd'hui.
55 000, oui. En comptant que la nuit dure environ 7 heures... puisque, comme le dit William Vogt, la production humaine est d'environ 175 000 unités. Je veux dire, 175 000 petites têtes blondes par jour.
Blondes ou brunes, en effet. Et voici donc les pessimistes en mesure d'attaquer le point décisif, le troisième de leur démonstration. Alors que la population de la Terre, de cette Terre qui est déjà incapable de donner à manger à sa population actuelle, est en voie d'accroissement continu, sa fertilité diminue. Les ressources naturelles du sol s'épuisent.
Monsieur Fairfield Osborne.
C'est un fait. La marée de la population humaine monte toujours, tandis que baisse le grand réservoir des ressources naturelles dont elle tire sa subsistance.
Monsieur William Vogt.
Nous sommes en train de détruire le capital alimentaire du monde.
Nous menons la planète au pillage.
Oui, ce que proclame avec effroi un certain nombre d'économistes, généralement américains et anglais, au premier rang desquels William Vogt, Ward Shepard et Fairfield Osborne, ce qu'ils proclament avec effroi, c'est que la terre nourricière, a été saccagée et continue à l'être par l'action imprudente et coupable des hommes. Et après tout, ces voix qui nous arrivent de l'étranger ne sont pas autre chose que l'écho démesurément agrandi et rendu fracassant par toutes les ressources de l'imprimerie, de la radio, du cinéma et de la télévision, que l'écho de la voix pure et noble entre toutes d'un poète de chez nous. Car n'était-ce pas Pierre de Ronsard, défenseur de la terre tourangelle, qui s'écriait « Souvenez-vous-en »
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas, Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce?
L'assassinat de la terre. Avec quels arguments les successeurs anglo-saxons de Ronsard s'efforcent-ils de nous prouver que les hommes sont en train de commettre ce crime? Et d'abord, qu'est-ce que le sol? Inspirons-nous ici d'un géologue français, M. Raymond Furon, qui est d'ailleurs loin de partager, du moins dans toute son étendue, la thèse de William Vogt et de Fairfield Osborne.
Un sol est un milieu qui comporte quatre groupes d'éléments. Des éléments minéraux, de l'eau, des éléments organiques, morts ou vivants, et des gaz. Le sol, l'air, la végétation et l'eau constituent un ensemble, un équilibre naturel mais instable. L'altération d'un des trois termes entraîne la modification qui peut être fatale de l'ensemble. Or, il n'y a même pas 10 000 ans, l'humanité qui existait pourtant depuis 1 million d'années environ, l'humanité a fait une découverte prodigieuse, celle de l'élevage et de la culture.
Comment, cette découverte est si récente?
Mais oui. Et avant cela, les tribus primitives qui vivaient de chasse et de cueillette étaient amenées, en vue de se procurer des végétaux et du gibier, à de grandes migrations. Il arrivait tantôt que les chasseurs de rennes descendissent jusqu'aux Pyrénées, tantôt, en des périodes où le climat s'était réchauffé, que les chasseurs d'hippopotames remontassent jusqu'en Angleterre.
Quoi? Des hippopotames en Angleterre?
Et oui. Et des éléphants. Mais, il y a donc à peine 10 000 ans, voilà que nos ancêtres inventent l'élevage et la culture. Ils deviennent en général sédentaires. Leur nombre croît de plus en plus vite. À cet accroissement de la population correspond un accroissement des besoins. L'homme s'efforce de mettre en valeur, comme on dit, des territoires de plus en plus vastes. Or, cette mise en valeur a eu pour premier résultat de rompre l'équilibre qui existait entre le sol, la végétation, l'air et l'eau. Elle a en outre déchaîné un certain nombre de forces dont les hommes ne soupçonnaient pas l'existence.
Et ce qu'il y a d'assez tragique dans le destin des hommes, c'est qu'à cette œuvre destructrice, la plupart d'entre eux, qu'ils fussent bergers, agriculteurs, colons, industriels, guerriers, ont, plus ou moins inconsciemment, mais de façon certaine, concouru. Car, entrons en effet dans le détail. Pour commencer par toi, guerrier, que tu eusses pour nom Tamerlan, Gengis Khan ou Hitler, tu as porté le feu et l'âge dans les régions les plus fertiles. Tu as massacré ou déporté des populations de laboureurs.
Monsieur Fairfield Osborne.
Dans la région comprise entre le Tigre et l'Euphrate, s'étendait autrefois une terre de bénédiction, faisant penser au jardin de l'Éden. Des méthodes perfectionnées d'agriculture y avaient été mises en œuvre. Grâce à un système de canaux admirable, l'eau des deux grands fleuves avait été dérivée et elle aidait ainsi à augmenter la production des terres. Et puis, des invasions ennemies sont venues. Elles ont crevé les digues, obstrué les canaux par où c'était la vie même des populations qui coulaient. Dans les champs, les jardins, les envahisseurs ont fait pâturer leurs chevaux. Ils ont coupé les arbres à fruits pour en brûler le bois dans leurs campements. Aujourd'hui, les villes de ce pays gisent sous des monceaux de sable.
Qu'as-tu à répondre, guerrier?
Que je faisais mon métier, la guerre. Non, franchement, que deviendrait le moral des armées si pour tout idéal on proposait à ceux qui vont se battre de devenir des soldats laboureurs?
Sans doute, mais c'est tout de même une vérité d'une portée générale qu'exprimait Attila. Tu sais bien Attila, roi des Huns. Quand il disait, là où mon cheval ou mon tank, a passé, l'herbe ne repousse plus. Et quant à toi, colon...
Oh, mais pardon, moi j'ai apporté...
Oui, je sais ce que tu as fait. Tu as joué un rôle immense dans la découverte du monde. Tu as apporté dans les pays neufs des médicaments, l'alphabet, des idéaux nouveaux, démocratiques ou autres, le savon et l'alcool. Tu as ouvert des hôpitaux et des écoles, creusé des ports, construit des voies ferrées et des pistes d'aviation. Et tu as importé en Europe les colossales richesses dont les conquistadors rêvaient. L'or, l'argent, les épices, le tabac, le café, le coton. Mais pour s'en tenir au point précis du pillage de la terre... Qu'as-tu fait, bien souvent?
Monsieur Fairfield Osborne.
Tu t'es obstiné à tirer de la terre un profit commercial, au lieu de ne la considérer que comme la source de nos aliments essentiels. Or, la nature, qu'on le veuille ou non, se refuse à nous donner des chèques en blanc pour couvrir notre recherche du profit.
Et ce n'est pas d'hier que date d'ailleurs le mal. Déjà à l'époque des Romains...
Monsieur Josué de Castro.
Mais oui, en peu de temps, les colons romains ont transformé en une steppe désolée Le grand grenier à céréales et le grand jardin d'oliviers plantés sur les coteaux de l'Atlas et dans les vallées côtières de la Méditerranée. Ils ont épuisé le sol pour le forcer à produire la quantité de grains exigée par la métropole. Ils ont détruit les forêts de l'Atlas pour fournir du bois à la flotte des Césars et satisfaire au luxe des palais romains. Le résultat de tout cela, l'effondrement rapide des colonies de l'Afrique du Nord, où les grands aqueducs, les barrages et les villes orgueilleuses construites par les Romains se sont écroulées et perdues dans le sable du désert. De ce désert qui a envahi le terrain, criminellement spolié de son ancienne végétation.
Et depuis les Romains, il y a eu les colons qui, se ruant sur l'or et l'argent des territoires nouveaux, ont obligé les indigènes, plus ou moins transformés en esclaves, à déserter les soins de la terre. Pour extraire du sol des pépites, on a mobilisé les bras qui en tiraient du blé ou des fruits. Et on en fait de même en sacrifiant des cultures vitales à des cultures moins nécessaires, mais plus ambitieusement lucratives. Je me rappelle une formule très schématique et très parlante d'un ancien gouverneur général du Congo belge, M. Lippens, qui écrivait en 1920 « Le Congo belge voit sa population décroître avec une incroyable rapidité parce que nous dédaignons les salades pour les caoutchoucs et les ouars. » mais oui, les humbles salades.
Mais rien n'est moins contestable. Et puisqu'on nous a parlé de caoutchouc...
Monsieur Josué de Castro.
Il y a, à ce propos-là, l'histoire symptomatique de ce qui s'est passé dans le bassin de l'Amazone quand il éclata soudain la fièvre de l'or noir.
Vous voulez dire du latex?
Oui, de ce latex précieux qui, dans toutes les vallées de l'Amazone, coulait comme du sang des blessures faites aux arbres. Le caoutchouc, à partir du moment où les procédés de vulcanisation furent découverts, atteignit des prix fabuleux sur les marchés mondiaux. Que firent alors les habitants de l'Amazone? Aussi bien populations indigènes qu'immigrants étrangers attirés dans le pays par le tenace espoir de s'enrichir du jour au lendemain en exploitant l'or noir. Ils ne s'occupèrent plus d'autre chose que de la culture du précieux latex. Les troupeaux furent abandonnés, l'agriculture paralysée, toutes les sources de richesses alimentaires furent taries.
Et oui, là aussi, l'humble salade, la salade nourricière, fut sacrifiée au caoutchouc.
Ah, mais pardon,
monsieur.
Pardon, parce que j'ai le droit de vous répondre, moi, colon, qu'avec une partie seulement des richesses en dollars, en florins, en livres sterling et en francs or que les habitants de l'Amazone tiraient de la vente du caoutchouc, il leur était du moins possible de se procurer de la nourriture à l'étranger. Et tout le reste était bénéfice qui restait dans leur poche.
Acheter de la nourriture à l'étranger, c'est bien ce qu'ils commencèrent par faire, les imprudents. Ils importaient, en effet, des conserves, de la viande sèche ou du corned beef. Des haricots durs comme des pierres ou rongés par les charançons. Du riz décortiqué, du chocolat et de l'alcool. Régime malsain, inadapté, sans aliments frais, puisque leur terre n'en produit plus, et qui détermina chez eux l'apparition d'une maladie de carence, le beriberi, qui fit des ravages effroyables.
Oui, la même maladie que sur les grands voiliers au long cours d'autrefois.
Exactement le même. Ceux qui en étaient atteints souffraient de paralysies musculaires effroyables et parfois générales. Quand ils arrivaient encore à se mouvoir, ils traînaient dans une démarche boitillante et tragiquement grotesque, des jambes maigres et décharnées, à moins qu'ils ne fussent au contraire, démesurément enflé et déformé par l'édème. Lorsque d'ailleurs le monopole du caoutchouc cessa et que le produit de la plante cultivée en Extrême-Orient concurrença victorieusement le produit de la vallée de l'Amazone, ce fut dans la région un véritable effondrement économique. C'est pourquoi les gens du pays, ceux du moins qui avaient échappé aux atteintes du beriberi, durent revenir aux anciennes coutumes de l'époque d'avant le caoutchouc, à la chasse, à la pêche, à la récolte des racines et des fruits de la forêt.
Bref, à cette agriculture primitive dont ils avaient eu le tort de méconnaître les bienfaits.
Le très grand tort, hélas.
Et encore dans le bassin de l'Amazone, il semble que les indigènes aient disposé d'assez de ressources pour pouvoir acheter au dehors les produits agricoles de base qu'ils ne cultivaient plus sur leur propre sol. Mais dans d'autres régions, ne sont-ils pas trop pauvres, ou si l'on veut trop exploiter, pour être en mesure de le faire?
Mais si, et c'est pour cette raison que tandis que l'Amazone était devenue, pendant l'exploitation du caoutchouc, le fleuve du beriberi, immense Mississippi devenait, lui, le fleuve de la pélagre.
La pélagre?
Oui, une terrible maladie, qu'on avait apparentée par erreur d'ailleurs à la lèpre. Ceux qui en sont les victimes commencent par présenter des troubles digestifs, puis ils sont comme marbrés d'horribles plaies, de taches rouges, qui ressemblent à des pétales de rose écarlate. Ils finissent dans des conditions affreuses, en proie à des délires et à des hallucinations qui les conduisent tout droit dans des asiles de fous, dans les pays où il y en a. Ah.
Après deux siècles de vaines recherches, on a fini par découvrir, à la fin de la Première Guerre mondiale, que la pellagre est en réalité une maladie de la faim. Or, sur les bords poétiquement semés de cotonniers du Mississippi, la pellagre avait établi depuis longtemps déjà son règne de terreur. Un savant nord-américain, Joseph Goldenberger, qui avait découvert la cause cachée du mal, devait aussi trouver le moyen de triompher de ce mal, ou plus exactement, de le prévenir.
Ce moyen était, en principe, enfantin. Il s'agissait tout simplement de prescrire aux habitants du pays, en grande majorité des descendants des esclaves noirs autrefois importés d'Afrique, une alimentation variée et contenant en particulier de la viande, du lait et des œufs.
Mais
il se trouve que la pellagre, maladie de misère, sévit précisément parmi les pauvres de ce monde, parmi ceux auxquels il manque toujours l'argent, le peu d'argent nécessaire à leurs besoins les plus essentiels. Et la viande, le lait et les œufs sont les aliments les plus chers dans quelques régions du globe que ce soit.
C'est bien vrai.
L'expérience me prouva que les populations du Mississippi n'étaient absolument en mesure d'acheter pour se nourrir que de la farine de maïs et du lard. La pellagre n'avait donc rien à craindre. La viande fraîche, le lait et les œufs étaient hors de portée comme un inaccessible luxe pour les malheureux noirs inexorablement attachés à la culture du coton. En fin de compte, je n'étais qu'un médecin et je ne pouvais rien faire pour modifier en quoi que ce fût le statut économique des États du Sud.
Et à Porto Rico?
Oui, à Porto Rico, par exemple, cas réellement tragique. Dans cette île où pullule, en effet, une population paysanne d'une densité égale à près de 10 fois celle de la France, les indigènes cultivent, en vue de l'exportation, canne à sucre, tabac et café, une surface 3 fois supérieure à celle qui est destinée à la culture du maïs, des haricots, des patates douces et de l'igname, qui constituent leurs aliments essentiels.
Surface 3 fois supérieure, c'est beaucoup.
C'est ainsi. Dans la vieille colonie espagnole qui se trouve maintenant placée sous la protection du drapeau étoilé, la politique économique des États-Unis a consisté à protéger une minorité insignifiante d'exploitants au prix des sacrifices les plus durs de la part de la majorité de la population indigène. Et c'est ainsi que, comme l'a très bien dit mon éminent confrère Preston James, Porto Rico, qui se trouve à l'intérieur des barrières douanières nord-américaines, est obligé d'acheter sur le marché le plus cher du monde tout ce qu'il ne produit pas.
Oui, ce qu'il ne produit pas du fait qu'il est obligé de cultiver pour quelques grands propriétaires ou pour quelques grandes compagnies de la canne à sucre, du café, du tabac.
Évidemment.
Autrement dit, des produits agricoles qui se vendent bien, mais pas à son profit.
Exactement. Comme le disait en conclusion un autre de mes éminents confrères, M. W. C. Sherman.
Je n'ai jamais vu un endroit du monde où une terre aussi riche profite à un si petit nombre de gens, qui pour la plupart vivent en dehors du pays, et où le peuple qui travaille soit si pauvre et si mal nourri.
C'est à des formes d'exploitation de ce genre que pense évidemment William Vogt quand il parle de formes d'exploitation vampiresques. Et ce n'est pas hier, car c'est, si je ne me trompe, en 1882, qu'un économiste de chez nous, pourtant bien orthodoxe, M. Paul Leroy-Beaulieu déclarait...
M. Paul Leroy-Beaulieu.
Les colonies de plantation sont devenues de véritables usines, sans autre but que la production du sucre, du café et d'autres marchandises que l'on puisse vendre à prix élevé.
Très juste.
M. Fairfield Osborne.
Très juste. La terre est de plus en plus exploitée comme une mine dont il s'agit de tirer le plus d'argent possible.
Mais rien n'est plus exact, en effet. Et alors, que se passe-t-il?
M. Josué de Castro.
Il se passe que les propriétaires de la terre concentrent tout le travail sur une culture unique et profitable. Ici, café, ailleurs, tabac, coton, caoutchouc, cacao. Ce système de monoculture, comme on dit, déséquilibre complètement la production de la terre. Et cela pour deux raisons. Primo, parce que, comme nous le savons, les exploitants abandonnent complètement les cultures essentielles, celles qui nourrissent les habitants. Secondo, parce que certaines plantes riches, comme la canne à sucre, sont, d'un individualisme agricole et d'une hostilité qu'on peut appeler morbide envers les autres espèces végétales. Et le système va si loin que, aux Indes, par exemple, les techniciens affirment que par des moyens de fertilisation appropriés, la production alimentaire du pays aurait pu augmenter de 20%.
De 20%?
Exactement.
Dans ce pays soumis à d'abominables famines qui font mourir chaque fois des millions d'habitants?
Oui, hélas. Eh bien, l'une de ces méthodes, la sélection des semences, n'a été employée par les Anglais que pour les produits exportables, bref, rémunérateurs. Voilà, voilà. Et aujourd'hui encore, c'est aux cultures d'exportation qu'est en pratique réservée l'utilisation des engrais chimiques.
Voilà. Oui, toujours pour la même raison, ce sont des cultures qui rapportent. Mais continuons à évoquer les arguments des pessimistes qui, après s'en être pris aux guerriers et ensuite aux colons, nous disent maintenant que les industriels ont joué aussi leur rôle funeste dans l'œuvre de destruction collective de la Terre.
Je n'admets pas qu'on m'attaque. Entend-on me faire grief d'avoir, je le dis avec orgueil, transformé l'univers, d'avoir domestiqué pour l'homme les forces de la nature, d'avoir mis à son service la vapeur, l'électricité, l'énergie atomique, d'avoir construit pour lui des machines, y compris des tracteurs agricoles, des faucheuses, des batteuses, qui multiplient par 10, par 100 le rendement de son travail. Tenez, messieurs, un simple exemple. Grâce à nous, en une heure, trois hommes, amenés par un avion, peuvent ensemencer 8000 hectares. S'ils voulaient procéder à la main en s'inspirant à cet effet du geste auguste du semeur, il leur faudrait 2 ans.
Mais non, mais chacun vous sait gré de ses succès. Mais que disent, malgré tout, ceux qui, à tort ou à raison, vous accusent d'avoir pris votre part dans le pillage, comme dit M. Fairfield Osborne, des ressources nourricières de la Terre?
M. Raymond Furon.
Ils disent que vous avez abattu des forêts pour alimenter les foyers de vos fonderies. Parfois ceux de vos locomotives.
Oui, comme par exemple au Chili.
En Amérique, les coupeurs de bois faisaient sauter les arbres à la dynamite et incendiaient ensuite les chantiers. Aux États-Unis, depuis 200 ans, la moitié de la forêt a disparu.
La moitié?
Pour s'en tenir à la production de la pâte à papier, elle provoque tous les ans la destruction de plusieurs milliers d'hectares de forêt. Sans nier l'utilité de la presse, j'indiquerai qu'un journal tirant à 100 000 exemplaires...
Oui, ce qui veut dire un régional de moyenne importance.
C'est cela. J'indiquerai qu'un journal tirant donc à 100 000 exemplaires consomme en une année la production de bois fournie par un hectare.
Oui.
Monsieur William Vogt.
Oui, oui. Comme si la valeur de ces flots de torchons de papier qu'on imprime, romans d'amour, aventures policières, journaux comiques, etc., était réellement suffisante pour justifier le déboisement des forêts.
Non.
Comme si les fantaisies superflues d'éclairage, publicitaire ou autre, qui nécessitent l'emploi de millions de lampes électriques inutiles, justifiait l'inondation de terres fertiles pour installer des équipements hydrauliques.
Non.
Comme si elle justifiait le fait que l'on gaspille en leur honneur nos ressources en eau souterraine, ce qui a pour résultat de tarir les puits et les sources nécessaires à la vie de la terre.
Évidemment.
Un des chevaux de bataille favoris de M. William Vogt est ce que le combatif économiste américain appelle le mirage de l'industrialisation.
Non, mais enfin, c'est vrai. Le fameux développement économique, dont la nécessité est devenue pour nous, et en particulier pour nous, Américains, un véritable article de foi, a été réalisé aux dépens de ressources qui ne sont que théoriquement renouvelables, comme les forêts et les prairies, et aux dépens d'un capital aussi irremplaçable que le sol et les ressources minérales. Hein, pour ne dire qu'un mot des ressources minérales. Quand on pense qu'au moment où surgit à nos yeux la perspective, le spectre de l'épuisement de nos ressources en essence, nous en gaspillons tous les jours des centaines de milliers de litres en construisant, par exemple, des autos d'une puissance et d'une exigence en essence fabuleuse. Des autos que nous lançons dans des courses dont le spectacle sert de dérivatif à la tension de notre esprit et à qui nous faisons parcourir chaque année sur les routes des centaines de milliers de kilomètres à la poursuite de jouissances futiles.
Le combatif économiste William Vogt a, comme on vient de le constater, la dent dure envers, de façon générale, l'industrie et de façon toute spéciale, les industries de luxe.
J'en veux surtout à notre conception du standard de vie dit américain, dont les trois éléments essentiels sont l'auto, la salle de bain et la radio. Comme le fermier estime qu'au même titre que l'ouvrier, il a droit à tout cela, il se procure, sur le rendement de la ferme, l'argent liquide nécessaire pour l'achat de sa voiture,
de sa radio et de sa salle de bain.
Ce qui se traduit immédiatement par une nouvelle ponction sur la capacité nourricière de la Terre.
Mais...
Et quand on pense que des Américains bien intentionnés ont réclamé le standard de vie américain ou quelque chose d'approchant pour le monde entier.
Oh.
Quelle monstrueuse déception en perspective. Déception qui ne sera une surprise que pour ceux qui n'ont pas réfléchi au fait que la capacité nourricière de la Terre décroît dans le monde entier.
Il y a deux qualités, la conviction passionnée et la verve que l'on ne saurait dénier à M. William Vogt. Mais ce qu'on trouvera certainement de plus frappant dans l'argumentation des pessimistes, qui vont lancer dans un instant la dernière et la plus violente vague de leur offensive, c'est qu'ils accusent les agriculteurs, oui, les agriculteurs eux-mêmes, d'être les principaux responsables de la destruction progressive et rapide du sol nourricier de la planète. Car, nous disent-ils, les agriculteurs, ou plus exactement certaines méthodes d'exploitation agricole, compromettent de la façon la plus grave l'équilibre naturel qui existe entre la terre, la terre qui nourrit l'homme, l'eau qui nourrit la terre, et la végétation qui la protège. Et voici l'essentiel de leur démonstration.
Monsieur Fairfield Osborne.
Dans toutes les régions cultivables du monde, le soleil, ou plutôt était, dans son état naturel, couvert d'une couche de terre, la terre du dessus, comme on l'appelle, dont l'épaisseur moyenne est de 25 à 30 cm tout au plus. On estime que dans les conditions les plus favorables, il faut à la nature entre 3 et 10 siècles pour produire un seul pouce, c'est-à-dire 2 cm et demi, de terre du dessus.
Ah, cette bonne terre vivante.
Monsieur Guillermo Nanetti.
Cette bonne terre vivante, elle s'est constituée au cours des siècles par la décomposition de débris animaux et végétaux. Sans elle, notre planète serait aussi morte que la Lune. Dans les terrains qui, par bonheur, sont encore couverts d'arbres, la pluie, après avoir cinglé les feuilles, roule doucement le long des branches et des troncs pour s'infiltrer entre les racines jusqu'au sous-sol. Cette eau qui s'infiltre dans le sous-sol, elle est la sève du monde. Par leurs racines, une multitude de plantes y puisent leur nourriture. Et d'autre part, cette eau donne naissance à des sources et à des puits et à des rivières dont les ondes de cristal dispenseront la fraîcheur, la verdure et féconderont le sol. Mais si l'eau souterraine est la sève du monde, la forêt est la mère des sources. C'est elle qui empêche l'eau de pluie d'ouvrir dans la terre des crevasses, d'y creuser des passages ravinés par où elle ruissellerait le long des pentes. Oui, les racines des arbres sont comme des mains amies qui retiennent le sol dans leurs mains multiples.
Somme toute, on vient de nous le dire, les arbres de nos forêts, la mousse de nos sous-bois, l'herbe de nos prairies constituent pour le sol un écran protecteur. Un écran qui serait à la fois, si l'on veut bien me permettre cette image, un parapluie et un paravent. Mais supposons que disparaisse ce revêtement végétal, que se passe-t-il? Une chose effroyablement dramatique. Le sol devient la proie de l'érosion.
De l'érosion, ce véritable cancer du sol.
Quand la forêt est abattue, la bonne terre se trouve exposée, nue et sans défense au coup de la pluie.
Monsieur Guillermo Nanetti.
Alors, chaque goutte, en sa chute violente, frappe comme un marteau une parcelle de bonne terre. Sous le choc de la goutte d'eau, cette parcelle s'effrite. Et l'eau accumulée se met à dévaler la pente, entraînant le sol avec elle. Les filets d'eau, devenus de véritables petits ruisseaux, ouvrent dans le terrain de vastes crevasses. Si l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol est, comme je le disais tout à l'heure, la sève du monde, l'eau de pluie qui court à sa surface est une voleuse de terre.
Pour bien comprendre ce que sont les différentes formes de l'érosion, cette dévorante ennemie de la Terre, c'est aux travaux de M. Raymond Furon que nous allons avoir encore recours.
Eh bien, on vient de nous le dire. Première forme d'érosion, l'érosion par la pluie. Dans les régions pluvieuses, si le sol n'est pas protégé par un tapis végétal suffisant, il est attaqué par les pluies d'orage et par les eaux de ruissellement qui y creusent des ravines et l'emportent en peu d'années. La totalité du sol peut ainsi disparaître.
Et parfois même en un seul jour, comme on en a déjà vu des exemples.
Monsieur Fairfield Osborne.
Un sol que la nature peut avoir demandé 1000 ans à construire, détruit en un seul jour. Quel drame!
Oui, mais pardon, chez nous, en France, nous faisons en sorte de limiter la quantité de terre qui peut être arrachée aux pointes des collines. Et quand j'étais tout gamin, en automne, en hiver, mon père me faisait entasser à la pelle dans le grand panier en osier la terre que les autres puits avaient entraînée au fond de la vallée. Et après ça, en route, il fallait la remonter sur mon dos. Oh, c'était du travail.
Non, mais M. Osborne et M. Vogt ont reconnu maintes fois que dans certains pays, comme la France, et aussi comme le Japon et la Chine, les méthodes de culture sont moins dévastatrices qu'ailleurs.
Exact. Non,
mais, M. Raymond Furon, s'il vous plaît, deuxième forme d'érosion.
Deuxième forme d'érosion? L'érosion par le vent. Dans les régions où la saison sèche se prolonge, ce n'est pas la pluie. C'est le vent qui emporte les particules arrachées au sol pour les reformer parfois ailleurs sous forme de dunes mouvantes. Il y a lieu d'ajouter, troisièmement, que dans les régions tropicales se produit, quand la forêt est détruite, un phénomène particulier, la latérisation.
La latérisation?
Oui, en deux mots, l'influence de la saison sèche provoque par évaporation à la surface du sol la formation d'une véritable cuirasse de minerai, d'un minerai alumino-ferrugineux qu'on appelle latérite. Cette cuirasse, qui est très dure, imperméable et haute parfois de plusieurs mètres, rend le sol évidemment impropre à toute végétation.
Ainsi donc, l'érosion dégrade ou détruit le sol. Elle compromet, en d'autres termes et de la façon la plus tragique, le renouvellement des ressources alimentaires du globe. Or, argument massu que va brandir l'armée des pessimistes...
Monsieur Fairfield Osborne.
Or, prenant le monde dans son ensemble, il est de fait qu'avant l'apparition de l'homme, l'équilibre du sol se trouvait en pratique maintenu. S'il se perdait en un endroit du fait de la pluie et du vent, une certaine proportion de bonne terre, il s'en formait ailleurs par l'action continue de la végétation et des débris animaux sur les couches minérales du sol, une nouvelle quantité qui compensait cette perte. Mais c'est quand la main de l'homme est venue déranger par ses malfaçons l'ordre naturel des choses que le sinistre processus de l'érosion a commencé à se dérouler, quand l'homme a commencé à détruire inconsidérément la couche d'herbe et de forêt qui protégeait le sol et a négligé de fournir à la terre de façon continue l'eau nécessaire à la croissance d'une nouvelle végétation protectrice.
Oui, somme toute, le responsable de l'érosion, c'est l'homme.
Oh, sans le moindre doute. Et c'est au premier chef, l'agriculteur.
Comment ? Alors j'ai tort de faire pousser les céréales et d'élever les bestiaux dont le monde se nourrira.
Mais non, bien entendu, mais non, mais non. Alors, je vous en prie, monsieur, voyons. Écoutez, sans les interrompre, les arguments de ceux qui affirment que certaines méthodes de culture favorisent et précipitent l'érosion.
Ce ne sont pas des arguments. C'est un fait.
C'est un fait.
Monsieur William Vogt.
Car c'est l'homme qui, pour défricher plus aisément la terre, pour la déblayer, afin d'y planter du maïs ou du blé, a employé la hache et son allié rampant le feu. Un seul homme, en une seule fois, et avec une seule allumette, peut défricher 50 hectares, dit un proverbe du Nicaragua.
Oui, et quand le sol est peu fertile, l'agriculteur recommence ses méfaits plus loin.
Monsieur Raymond Furon.
C'est ce qu'on appelle la culture extensive.
C'est ce type de culture qui, sur les hauts plateaux du Mexique, du Honduras et du Guatemala, a provoqué une destruction progressive de la terre et, à en croire les historiens, la chute des civilisations primitives mayas et mexicaines. Mais l'agriculture de là-bas reste indissolublement fidèle à ses idoles, et sur des milliers d'hectares en Amérique du Sud, la culture progressive, la culture en mille pas, comme on dit, demeure le système dominant.
L'Amérique du Sud, peut-être, mais pas en France.
Exact. Mais s'il est vrai que, de façon générale, les dégâts n'ont pas été très grands dans les pays à climat tempéré, parce que les vents et les pluies n'y atteignent pas souvent une grande durée ni une grande violence, ailleurs, et en montagne surtout, la destruction totale des forêts entières par la hache et le feu a entraîné des désastres sans nombre sous forme d'inondations brusques dans les vallées. Les eaux d'orage, n'étant plus retenues par la végétation ni par le sol, enlevées par érosion, se précipitent dans les torrents qui atteignent en quelques minutes un énorme volume. D'ailleurs, en ce qui concerne le feu, il faut bien dire que les pasteurs de troupeaux, les éleveurs, ne sont guère moins dangereux que les cultivateurs, car ils incendient eux aussi les forêts afin d'éclaircir les sous-bois, pour obtenir de nouvelles pousses, pour étendre la surface des pâturages.
Mais oui, et c'est ainsi qu'en Grèce, dans cette Grèce qui était autrefois un pays de bosquets et de ruisseaux, on brûle périodiquement les pentes, jadis fertiles des montagnes, en se figurant à tort d'ailleurs qu'en procédant de la sorte, on améliore les pâturages.
Et en Australie?
Monsieur Fairfield Osborne.
En Australie, où pendant les chaleurs de l'été, les forêts d'eucalyptus brûlent avec plus d'ardeur que n'importe quelle forêt au monde, les feux de brousse allumés par les agriculteurs brûlent jusqu'à 60 cm de profondeur les racines des arbres. L'accélération de l'érosion dans les régions montagneuses y est positivement effrayante.
Oui, mais l'homme ne dispose pas pour détruire le revêtement protecteur de la terre que de la hache ou du feu. Après la hache et le feu, il a utilisé la charrue. La charrue qui dépouille le sol de sa couverture végétale naturelle. Nanti de sa charrue,
l'homme ne s'est pas préoccupé de tracer ses sillons de façon à s'opposer au ruissellement dévastateur des eaux de pluie.
Oui, comme il aurait pu le faire, par exemple, en les traçant aussi perpendiculairement que possible à la ligne de plus grande pente des collines.
C'est cela. Ou en utilisant un système de terrasses, comme le faisaient autrefois les Incas pour cultiver les flancs des Andes. Mais de façon générale, l'homme a creusé ses sillons au hasard, taillant la terre de haut en bas, ameublissant le sol sur une trop grande épaisseur et décuplant ainsi les effets destructeurs des eaux de pluie en les dirigeant si rigoureusement vers les torrents qui coulent dans les vallées et ensuite vers la mer que même des ingénieurs n'auraient guère pu faire mieux.
Permettez, sur cette terre que je laboure, moi je fais pousser du blé, du maïs, de l'avoine, toute une végétation nouvelle qui protège à son tour le sol.
Qui le protège sans doute, mais beaucoup moins qu'un revêtement naturel. Exemple, le blé semé en automne ne protège pas le sol contre les vents de l'hiver ou les pluies du printemps. Pendant des mois, la terre est nue, et il est de fait qu'il faut à l'érosion un temps infiniment plus long pour enlever la bonne terre d'une prairie que celle d'un terrain labouré.
Si on le laissait sur toute la terre que des forêts et des prairies, c'est pour le coup que l'humanité se sentirait le monde creux.
Je vous en prie, monsieur, non. Laissons aux opinions de monsieur William Vogt et de monsieur Fairfield Osborne la possibilité de s'exprimer jusqu'au bout, voulez-vous?
Monsieur William Vogt.
Après l'action de la hache, du feu et de la charrue, un des facteurs les plus puissants qui favorise l'érosion du sol est la substitution aux plantes sauvages de certaines plantes cultivées. Il est incontestable que le maïs, que Leslie Bird Simpson appelle le tyran du Mexique, il est incontestable que le maïs cultivé en sillons largement espacés draine en quelque sorte les eaux de pluie et facilite leur écoulement rapide vers la mer, en réduisant ainsi de façon funeste la quantité d'eau nourricière qui s'infiltre dans le sol. Si l'on dresse d'ailleurs un tableau établissant le rapport entre la nature des plantes cultivées et le degré d'érosion qu'elles provoquent, on constate que des céréales comme le blé, l'avoine, l'orge abîment de 16 à 40 fois autant le sol que des bois, des forêts, des prairies naturelles. Et que des plantations comme le maïs et le tabac l'abîment 100 fois plus.
100 fois ?
Alors très bien, qu'on dise aux gens de se nourrir des glands de nos forêts, des pancrètes de nos prairies, la qualité du sol n'y perdra rien.
Mais monsieur, je vous en prie.
Il y a une autre façon de faire, imputable celle-là aux éleveurs, qui a accentué de façon considérable les funestes effets de l'érosion. C'est la tendance qu'ont les éleveurs à surcharger les pâturages naturels en s'efforçant de faire tenir le maximum d'animaux sur le minimum de surface. Résultat, l'herbe et les buissons sont détruits et laissent le sol à nu.
Les dégâts causés au sol par le bétail. En Grèce, ce sont les chèvres qui ont saccagé de leurs sabots fourchus non seulement les montagnes de l'Attique, mais des surfaces de plus en plus vastes du pays.
En Australie, ce sont les moutons. Quiconque n'a jamais vu des troupeaux de moutons comptant chacun plusieurs milliers de têtes ne peut se faire une idée même approximative du tort qu'ils peuvent causer au sol en dévorant jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines, inclusivement, les plantes de toutes espèces et en saccageant entre-temps de leurs petits sabots durs et tranchants ce qui aurait échappé à leurs dents.
Mais indépendamment des moutons et des chèvres, il y a, si je ne me trompe, comme auxiliaire de l'érosion, les lapins. Ces pacifiques lapins dont on a tant parlé ces derniers temps.
Pacifiques ? Les lapins ? Appelez-les donc plutôt une peste. Ils frappent au cœur les pâturages par l'habitude qu'ils ont de dévorer les meilleures plantes et de laisser les autres. Ils font périr, en les décortiquant, un nombre immense de jeunes arbres et de buissons, sans préjudice, naturellement, des semis naturels qu'ils dévorent. Les dommages, dont beaucoup sont d'un caractère permanent, qui ont été causés à l'Australie par les lapins, sont inimaginables. Ce fut un triste jour pour cette île que celui où l'un des plus anciens colons venant d'Angleterre fit mettre à bord avec ses bagages une caisse à claire-voie où broutaient tranquillement quelques lapins de garenne.
Oui, pour une fois que des Anglais s'occupent avec sérieux de la question popote.
Ah oui, enfin.
Quoi qu'il en soit, nous disent les pessimistes, entraînés à l'assaut par William Vogt et par Fairfield Osborne, par l'âge, le feu, la charrue, par les abus de l'élevage, les agriculteurs, les éleveurs ont détérioré, dégradé la planète. Ils ont livré la terre à l'action destructrice et défertilisante de l'érosion. Et comme le dit avec une accablante précision M. Raymond Furon,
le résultat de cette action est la mise à nu du rocher stérile qui ne peut plus supporter aucune végétation. Entre les sols en cours de dégradation et ce cas extrême, on trouve tous les intermédiaires. Mauvaises terres, badlands, comme disent les anglo-saxons, landes à bruyères, garrigues, etc. Dans les régions tropicales, la destruction de la végétation entraîne la latérisation du sol, la formation d'une croûte imperméable de minerais aluminaux ferrugineuses. Là où s'étendaient les forêts, il n'y eut d'abord plus que des savanes, puis des prairies, puis des steppes, et il ne reste plus finalement que de grandes étendues stériles et désolées.
Un autre résultat, c'est le suivant.
Monsieur William Vogt.
À mesure que diminue la faculté du sol de retenir les eaux de pluie, l'humidité souterraine normale qui procure aux racines l'eau indispensable baisse rapidement. Les infiltrations sont moins abondantes dans le sous-sol, d'où elles pourraient rejaillir en fontaines et en puits artésiens. La présence de champs de blé dans un coin d'un état peut tarir les puits dans un rayon de 80 km.
Pardon, je voudrais ajouter à ce tableau un chiffre significatif.
Monsieur Fairfield Osborne.
En ce qui concerne la cadence de cette dégradation généralisée du sol, on a dernièrement calculé que les quelques dizaines d'années qui précèdent ont causé une perte de terre productive plus importante que celle de tous les siècles passés réunis. La planète est bien au pillage. Et si l'on veut de ce fait quelques exemples spectaculaires, on n'a qu'à ouvrir les yeux sur le monde.
Un exemple d'érosion par la pluie.
Monsieur Guglielmo Nannetti.
Le voyageur, dont le navire approche du port colombien de Barranquilla, sur la mer des Antilles, aperçoit la mer de Colombie avant même de découvrir la côte. La mer, jusqu'alors d'un bleu tropical, devient jaune à perte de vue. Ce qui donne à l'eau de mer, sur plusieurs kilomètres, autour du port de Barranquilla, cette tonalité jaunâtre, c'est de la terre. D'où vient cette terre ? Elle vient de la vallée du fleuve Magdalena, qui se jette dans la mer des Antilles. Et elle vient des flancs des montagnes, la cordillère des Andes, qui borde la vallée. Arrachée par les pluies, elle a été charriée par les ruisseaux, les affluents et les rivières tributaires du fleuve. Avant d'être entraînée par lui, elle nourrissait des plantations de café, de bananes, de maïs. Le voyageur contemple d'un œil indifférent ce ton jaune de la mer. Il ne se doute pas que chaque jour, que dis-je, que chaque heure, chaque minute, toute la richesse d'un peuple est précipitée dans les flots.
Mais autre exemple, au Chili, la plus grande partie de la terre végétale de la vallée jadis fertile du fleuve Biobío a été entraînée dans les profondeurs de la mer sous forme d'un vaste amas de boue qui a étouffé à son tour une bonne partie de la vie sous-marine, et en particulier les bancs de coquillages qui pullulaient en bordure des côtes. Et si l'on veut parler d'érosion par le vent, on se rappelle l'émotion produite en 1934 d'un bout à l'autre des États-Unis par un vaste ouragan transcontinental à ce point chargé de poussière qu'il en obscurcissait le ciel. Ainsi éclata aux yeux de tous, de la façon la plus directe et la plus frappante, le fait que des surfaces immenses et autrefois fertiles, appartenant à 5 États de l'Ouest, au nombre desquels le Texas, étaient maintenant réduites en un bol de poussière.
C'est cela, on a un best ball.
Ouais. On a un bol de poussière stérile et désolé. Cette catastrophe avait pour cause le fait que la terre avait été piétinée par des troupeaux trop importants.
Et qu'elle avait été retournée avec excès par la charrue.
Et qu'on y avait mis en culture des terres impropres à cette destination.
Et si l'on veut maintenant quelques exemples de cas où les infiltrations nécessaires à l'humidité souterraine ont été compromises et taries par l'érosion, qu'on sache qu'à Baltimore, le niveau des eaux souterraines est tombé en 32 ans de 50 mètres. Et qu'on sache qu'en Afrique, le niveau des eaux souterraines semble baisser progressivement presque partout. Au Nyasaland, dans un seul district, 20 cours d'eau importants ont perdu leur caractère permanent depuis le début de ce siècle. Ou bien ils ne coulent plus que de façon irrégulière, ou bien ils ont complètement disparu.
Tragique, tragique, tragique.
Ainsi, proclament les pessimistes, et c'était le troisième temps de leur argumentation, ainsi, il est prouvé que, par la faute des hommes, les ressources naturelles du sol diminuent dans des proportions dramatiques. Et c'est ce qui leur permet de donner une réponse à l'angoissante question qu'ils s'étaient posée dès le début. Les populations augmentent, la terre s'épuise, mangerons-nous demain ? Réponse non. Réponse non, à moins que... Nous verrons au cours de notre prochaine émission quelles sont les solutions suggérées par les pessimistes pour que c'est à moins que se traduise dans les faits. Quelle solution ? Un enfant comprendrait qu'étant donné que le drame de l'alimentation humaine dépend de deux facteurs, le fait que la population du monde s'accroît et le fait que ses ressources nourricières diminuent, il faut pour ralentir le développement de ce drame agir avec résolution sur l'un ou l'autre de ces facteurs. Ou mieux encore, sur l'un et l'autre.
Parfaitement.
Monsieur William Vogt.
La solution est double. Limitation des populations d'une part et reconstitution des ressources naturelles d'autre part.
Nous verrons également, à la lumière des enseignements que nous aura apportés le Congrès de Rome, quelles sont les solutions que proposent des savants et des économistes animés, eux, d'un optimisme constructif. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut aller vite. Et il y a en tout cas une phrase de William Vogt à laquelle les uns comme les autres, optimistes aussi bien que pessimistes, peuvent souscrire sans réserve. La suivante.
Si l'on veut empêcher les masses de se laisser prendre au boniment des charlatans, qui les enfoncent toujours un peu plus dans leur misère et qui les poussent à chercher leur route dans des cul-de-sac, il est urgent de faire connaître à l'humanité tout entière ce problème mondial. Si nous ne faisons pas très rapidement le nécessaire, si l'homme ne réadapte pas son mode de vie au sens le plus complet, aux directives imposées par la limitation des ressources de son milieu naturel, nous ferons aussi bien d'abandonner tout espoir de conserver une existence civilisée.
À bientôt donc, mesdames, messieurs, et plus exactement le dernier samedi de janvier, la voix de ce que l'économiste américain appelle la voix de l'espoir.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le cadre de la série « Le siècle en est là », deuxième série numéro 1, la radiodiffusion française vient de vous présenter « La Terre est-elle trop petite pour nourrir les hommes ?» Texte et réalisation de Robert Coulomb. Les rôles des personnages qui ont pris part à l'action, ainsi que ceux des savants, des économistes et des écrivains dont les opinions ont été évoquées et confrontées au cours de cette émission, ont eu pour interprète, par ordre d'entrée dans l'action, Fernand Fabre, Jeanne Val, Hieronymus, Marcel Alba, Frédéric, Georges Hubert, Maxime Léry, Linette Lemercier, Serge Nadeau, Dominique Bucat, Robert Moore, Jean-Louis Alibert, Gaëtan Jor, Henri Presta, Albert Gercourt, Georges Carmier et Louis Arbessier. Collaboration Frédéric. Prise de son, Roger Vandened, assisté par René Hudebert. Assistante de production, Michel Pietri.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 28 novembre 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».